Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir, une fois de plus, pour échanger ensemble. Ce n'est pas juste une formule pour vous accueillir comme chaque semaine, mais c'est vraiment pour dire que notre cœur à l'Église Paris Métropole, c'est d'être avec vous, d'échanger avec vous, d'ensemble comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors n'hésitez pas, continuez à poser vos questions à cette adresse qui s'affiche, contact.pasteursam@gmail.com. J'ai un plaisir de recevoir vos mails, de voir vos commentaires et d'essayer de répondre à vos questions. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais prendre plusieurs questions aujourd'hui. J'avais un stock en fait de questions qui commençait à augmenter fortement et donc j'ai eu à cœur de prendre plusieurs questions, des questions simples pour certaines, pour pouvoir un petit peu diminuer ce stock et ne pas avoir un délai trop long entre les questions et les réponses. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de mails justement par rapport à plein de questions. Donc, merci pour votre interaction, merci et continuez à le faire. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Église Paris Métropole, à partager nos contenus et à vous abonner aussi aux notifications en activant la petite cloche. Alors, aujourd'hui, je voulais prendre un peu de temps avant de répondre à vos questions, de prendre un peu de temps sur parler de la nature de Dieu, de ses attributs. Qui est Dieu finalement? Quelles sont les caractéristiques de Dieu et comment la Bible nous enseigne à connaître Dieu? On ne va pas voir tous les ensembles des attributs de Dieu et on va aller finalement en survolant cela parce que le temps est limité, nous ne sommes pas dans un cours d'école biblique ou d'institut de théologie, on n'a pas un semestre pour développer les attributs de Dieu, mais par contre, nous allons voir certains principes qui sont essentiels pour comprendre Dieu et connaître Dieu. Pourquoi est-il important de définir ces choses-là? Parce que tout simplement, il ne suffit pas de dire que nous sommes disciples de Jésus, que nous croyons en Dieu, que nous lisons la Bible. Il faut être d'accord ensemble sur ce que la Bible enseigne par rapport à Dieu. Il ne suffit pas de louer, de chanter, de prier Dieu. Il faut savoir qui nous prions. Quelles sont ses caractéristiques, ses attributs? Pourquoi? Parce que ça va déterminer la manière dont nous allons prier. Cela va construire notre relation que nous avons à ce Dieu qui est notre Créateur et qui nous invite justement à cette réalité de la relation avec entre sa créature, nous, et le Créateur, lui. C'est important de connaître celui que nous adorons. C'est important de connaître celui que nous prions. Alors cette semaine, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, j'ai publié une citation, comme je le fais tous les lundis. Une citation de Blaise Pascal. Vous avez pu découvrir que depuis, si vous me suivez un petit peu, que j'aime particulièrement celui qui a écrit ses pensées. Blaise Pascal dit ceci: Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est des belles phrases, c'est des choses que l'on peut mettre sur des posts, c'est des choses qu'on partage facilement. Alors après, l'important c'est de comprendre ces phrases-là. Pourquoi j'ai pris cette phrase-là, cette citation? Parce que, en fait, justement, elle nous appelle à réaliser que Dieu a une nature particulière. Il est infini, il est insaisissable, il est partout à la fois. Et cette citation est la parfaite introduction vers ce que je veux faire ce soir, c'est de parler donc des attributs. Et habituellement, nous avons l'habitude de créer deux catégories. Quand nous parlons des attributs de Dieu, nous parlons de ce qu'on appelle les attributs incommunicables. Et les attributs communicables. Certains ont aussi donné des termes plus génériques, on appelle souvent cela les attributs non moraux, les attributs moraux. Même si pour l'aspect communicable, parfois on a sous-catégorisé et que l'aspect moral, les attributs moraux sont parfois en fait qu'une simple sous-catégorie de ce qui est communicable. Alors je vais m'expliquer parce que là j'ai employé un jargon peut-être qui vous a déjà perdu. Mais c'est très simple en fait. Les attributs incommunicables, c'est ce qui fait Dieu, c'est ce qui constitue Dieu et qui ne peut pas être transmis à l'homme. C'est donc pour ça qu'on appelle cela incommunicable, qui ne peut pas être communiqué, qui ne peut pas être donné à l'homme. Le reste, ce sont des attributs qui caractérisent Dieu, dont Dieu en est l'expression parfaite, mais dont Dieu veut nous communiquer les bienfaits. Et dont Dieu voudrait que nous marchions dans cela. Alors, premièrement, ce qui est incommunicable, on pourrait classer cela en deux grandes familles. La première famille, c'est une famille assez simple à retenir et qu'on connaît un petit peu finalement intuitivement. C'est le fait que Dieu est à la fois omniprésent, omnipotent et omnipuissant. C'est assez facile à retenir et cela veut dire qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est à chaque endroit. C'est un peu ce que nous dit la citation de Pascal. Il est le Dieu est une sphère et dont le centre est partout. Dieu est présent partout. Par son esprit, il est présent en tout lieu de cette terre, en tout lieu de nos circonstances, mais en tout lieu de l'univers, parce que nous ne sommes pas, nous, sur terre, la limite de sa puissance et de sa présence. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Il est cette capacité d'action puissante que rien ne peut limiter. Et il est omniscient, c'est-à-dire qu'il a cette science et cette connaissance de toutes choses. En lui réside le savoir, la connaissance. Nous, en tant qu'êtres humains, nous découvrons, nous cherchons, c'est le but des scientifiques, ils vont chercher. Nous cherchons des principes, nous cherchons de la connaissance, nous essayons de répertorier le vivant, nous essayons de progresser dans ce domaine. Malgré tous nos efforts, beaucoup nous échappent. Et d'ailleurs, dans le domaine de l'astrophysique et de l'espace, on réalise qu'on ne fait que découvrir et on repousse toujours plus loin notre connaissance, mais ce n'est qu'une frontière qui avance. Mais Dieu connaît tout, puisqu'il a créé. Alors ça, c'est, on va dire, une catégorie qui a été assez facile à connaître et on comprend assez vite que nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. Que nous ne jouons pas dans cette catégorie-là avec Dieu, nous ne sommes pas en concurrence avec Dieu d'un point de vue de notre science, d'un point de vue de notre présence ou d'un point de vue de notre capacité d'action sur les circonstances. De l'autre côté, nous avons, on va dire, quatre attributs. Évidemment, ces listes ne sont pas closes au sens qu'on pourrait en trouver des sous-catégories si on voulait définir un peu plus précisément. Nous avons un attribut que l'on donne souvent à Dieu, qu'on l'on définit comme cela, de l'indépendance. C'est-à-dire que Dieu ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Nous, en tant que créatures, nous ne sommes pas là à aider Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Il ne peut recevoir de nous que la gloire, que l'honneur que l'on peut lui donner. C'est-à-dire que nos bouches peuvent adorer Dieu, peuvent lui dire merci, mais ne vont pas agir sur sa nature. Il y a cet aspect aussi d'éternité. Dieu est éternel, n'a ni commencement ni fin. Et toute chose sur cette terre a un commencement. Et même si Dieu nous promet cette éternité, elle est éternité dans le futur. Même si Dieu nous dit que nous étions dans ses pensées avant que nous soyons conçus, nous n'avons pas l'éternité de Dieu dans le sens qu'il n'a ni commencement ni fin. La troisième chose, c'est l'immutabilité. C'est-à-dire que Dieu ne change pas, et ça nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans un cours auparavant et je ne vais pas m'attarder sur cela. Et un autre attribut qui est incommunicable, c'est ce qu'on appelle l'unité de Dieu. Dieu est un en toute chose, dans ses capacités, dans ses perfections, dans ses attributs. Il y a cette force de l'unité. Rien n'est divisé en Dieu. Tout est parfaitement un. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attributs incommunicables. Et maintenant, on va voir rapidement les attributs communicables. Les choses que Dieu veut nous faire vivre, finalement, veut nous partager. Dans cette liste, et là, ma liste sera loin d'être exhaustive. Nous avons vraiment, si nous voulions prendre le temps de voir tous les attributs communicables, nous aurions vraiment une liste très longue, et finalement, ce n'est pas parce que Dieu a comme cela des attributs qui apparaissent un jour, c'est juste que cela prend du temps de bien analyser les différentes choses que Dieu est capable de faire et d'être. On va prendre quelques exemples, on va dire que Dieu est saint, ça nous le savons tous, et il est parfaitement saint, et il nous appelle à vivre sa sainteté, à être en partage de sa sainteté, à sanctifier nos vies, à nous élever vers cette sainteté qui est celle de Dieu. Dieu est paix, il est la paix, il est celui qui amène la paix. Il y a une plénitude de paix en lui, une perfection de paix. C'est tout le sens de ce mot « shalom » dans l'Ancien Testament. Et c'est vers cela que Dieu veut nous amener, la paix. La bonté est caractéristique de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a des moments dans la Bible où Dieu juge le péché, où Dieu se met en colère contre un comportement, mais Dieu est foncièrement, intrinsèquement bon. Et il nous transmet cette bonté, il veut nous faire vivre cette bonté, il veut que nous soyons aussi des hommes, des femmes qui vont amener de la bonté dans leur entourage, dans leurs circonstances. Dieu est juste. Dieu est amour aussi. Ça, c'est une caractéristique, c'est souvent ce que l'on retient. Dieu est amour, c'est un petit peu le slogan que l'on aime bien brandir. N'oublions pas qu'il est autre chose aussi. Dieu est amour, ça ne veut pas dire qu'il laisse tout passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne juge pas quand l'action est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'il renonce à sa sainteté. Mais il est amour dans l'ensemble de ses attributs aussi. Il est miséricorde. Ça, c'est un attribut qui était très compris par le peuple d'Israël. La grâce de Dieu, la capacité de Dieu à faire miséricorde était un attribut qui était chanté par le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Car ta bonté dure à toujours. Ça, c'est une réalité. Car ta miséricorde dure à toujours. C'était des versets qui étaient là sur les lèvres du peuple d'Israël. C'est un ensemble d'attributs, de caractéristiques de Dieu que Dieu veut nous communiquer. Il les exprime d'une manière parfaite en lui et il veut nous les faire vivre. Alors voilà, quelques minutes, j'ai pris ces quelques minutes pour essayer de voir avec vous ces différents attributs et je voudrais que cela serve pour vous dans votre construction. Quand vous priez, quand vous allez vers Dieu, quand vous approchez de Dieu, venez sur les mérites de qui il est. Venez sur la base de qui il est. Quand vous priez Dieu et que vous êtes dans une situation compliquée, gardez à l'esprit que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est plein de bonté, que Dieu est tout-puissant pour agir dans votre situation, que Dieu est présent près de vous parce qu'il est omniprésent, que Dieu connaît vos circonstances dans le moindre détail. Quand vous êtes dans la difficulté, dans le désert, dans le doute, n'oubliez pas qui est Dieu. On parle de beaucoup de choses. On entend beaucoup de prédications, on entend beaucoup de choses sur la Bible et sur ce que Dieu est. Mais le plus important, c'est de savoir quels sont ses attributs. Pour ne pas douter quand il est nécessaire d'être ferme dans notre foi, pour réaliser que Dieu ne change pas, il est immuable, il est éternel, il est un, rien ne peut le diviser, rien ne peut, il n'a besoin de personne. Donc quand vous venez vers lui, réalisez tous ses attributs, réalisez qu'il est Dieu, qu'il est parfait en ce qu'il est, et qu'il veut vous accompagner dans tout ce que vous faites. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Maintenant, je vais venir aux quelques questions que j'ai répertoriées. Et d'abord, je vais prendre un verset biblique pour répondre à une question de Rachel. Rachel m'a posé beaucoup de questions et je ne voudrais pas user de sa patience. Alors, j'ai pris une première question que je vais trouver en lisant deux versets. Jean 14, versets 16 et 17. Il est dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. » La question de Rachel c'était de savoir finalement pourquoi le monde ne peut pas connaître l'Esprit de vérité. Pourquoi, qu'est-ce qu'il en est de ce monde et qu'est-ce qui se passe finalement ? C'est très intéressant, il faut qu'on comprenne qu'il y a une séparation qui est claire et Jésus en parle souvent. Et souvent Jésus avait ce discours en disant « Eux ne peuvent pas comprendre mais vous, vous comprenez ». Il disait ça aux disciples. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a une dichotomie, une séparation entre le monde et ceux qui sont disciples de Jésus, ceux qui suivent l'enseignement de Dieu. Mais la séparation entre les deux n'est pas une séparation définitive et étanche. Dieu veut se révéler au monde. Dieu veut utiliser d'ailleurs ceux qui ont eu la révélation pour se révéler aux autres. C'est tout le principe de la mission qui est la nôtre de faire des nations des disciples. Et Jésus, en fait, dans ces mêmes chapitres de Jean, va expliquer aussi que finalement le travail dans les cœurs, le travail qui amène la repentance, qui amène le retour à Dieu, c'est un travail qui est spirituel et qui est amené par l'Esprit de Dieu. Donc oui, le monde ne peut pas reconnaître Dieu, ne peut pas reconnaître l'œuvre de Jésus par ses propres yeux, mais il faut que l'Esprit de vérité vienne et fasse révélation. Donc les disciples, à ce moment-là, ils n'allaient être plus que 11, mais rappelons-nous que dans la prière du chapitre 17, Jésus va dire qu'il prie pour les disciples qui ont cru en sa parole, mais aussi pour ceux qui croiront en la parole des disciples. Donc l'idée de génération suivante de disciples est bien ancrée ici. Et Dieu a un plan pour l'humanité, Dieu a un plan pour que le monde qui, à un moment donné, est aveugle, revienne ou vienne à la vue. C'est une œuvre qui est spirituelle, qui est divine, Et une fois que Dieu ouvre ses portes, une fois que Dieu a fait cet appel, on appelle ça finalement l'appel de Dieu sur les cœurs, une fois que Dieu a accompli cette chose-là, des hommes, des femmes qui autrefois étaient aveugles deviennent voyants, voient. Capables, sont pas voyants, mais sont capables de voir. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et donc, ceux qui autrefois voyaient le monde comme étranger vont voir arriver dans leur famille des personnes qui ont la révélation de Christ. Et des personnes qui vont voir la vérité avec cet esprit de vérité qui les illumine et qui les conduit, qui leur permet de marcher toujours plus dans cette vérité. Alors j'espère que ça fait sortir un petit peu un doute par rapport à ce verset pour Rachel et pour d'autres. En tout cas, si ma réponse n'est pas claire, peut-être que vous pouvez continuer à m'écrire, on verra pour plus de précision. Alors j'ai d'autres questions, des questions peut-être plus simples et très pratiques. Je ne me rappelle pas des noms de toutes les personnes qui me posent des questions, mais il y a cette question qui était là, qu'est-ce qu'on peut lire en premier dans la Bible ? Ça, c'est une question assez simple. Et c'est finalement une question assez difficile à répondre. Elle est tellement simple que c'est difficile d'y répondre. Je vais juste donner des petits conseils qui pourraient aider. En gardant à l'esprit que Dieu veille sur sa parole et que n'importe quel texte de la parole de Dieu peut toucher un cœur. Habituellement, c'est vrai que je n'ai jamais entendu un pasteur conseiller à quelqu'un de lire en premier le Lévitique ou d'aller se plonger dans les chroniques. Parce que on a souvent cet a priori que ces textes-là sont trop compliqués ou trop mystérieux pour pouvoir toucher les cœurs. Ce qui est faux pour moi. J'ai des témoignages, je peux en parler, de personnes qui se sont converties en lisant une généalogie. L'Esprit de Dieu est bien au-delà de ce que nous pouvons, nous, avec nos yeux humains, concevoir. Donc, comme conseil de lecture, il y a plusieurs pistes. Moi, j'aime beaucoup conseiller le Pentateuque, les cinq premiers livres, parce que on est dans le récit de la création et ça fait rentrer celui qui découvre dans ce que Dieu a fait à l'origine, le plan initial. Après, il y a d'autres options qui peuvent être de lire les évangiles. Lire les évangiles, et c'est vrai que souvent on a conseillé l'évangile de Jean. Je ne suis pas sûr que je conseillerais l'évangile de Jean en premier. Pourquoi ? Parce que pour moi, le chapitre 1 de l'évangile de Jean est le chapitre quasiment le plus philosophique du Nouveau Testament, et pas si simple à lire. Mais on a souvent dit que c'était l'évangile de l'amour, donc c'était une bonne approche. Moi, je conseillerais par exemple l'évangile de Luc. Je conseillerais aussi les Actes des Apôtres, qui sont des livres qui vont montrer comment Dieu agit. L'évangile de Luc, avec cette fibre finalement de justice sociale, d'un regard d'amour de Dieu et de Jésus sur la circonstance de ceux qui sont en difficulté, des indigents, des rejetés. D'ailleurs, les Actes des Apôtres, c'est un petit peu la même vision, mais avec la différence, c'est que l'on voit des hommes qui marchent dans les actions de Jésus. Donc c'est des bonnes lectures pour introduction, mais en fait, je n'aurai pas un conseil défini, parce que comme je vous le dis, Dieu se révèle. Ça peut être à travers un psaume, ça peut être à travers des proverbes de sagesse. Mais peut-être commencer par les évangiles. Une autre question, c'est comment appliquer la Bible ? Comment laisser Dieu se révéler à mon cœur ? Alors, je prendrai le temps de faire un cours sur l'étude de la Bible. Comment étudier la Bible ? Ou peut-être même plusieurs cours, mais d'abord, j'ai envie de vous dire un principe très important. Quand vous lisez la Bible, quand vous regardez les textes bibliques, gardez une leçon primordiale à l'esprit. Ce livre n'a pas été écrit que pour vous. Ce livre a été écrit pour d'autres avant vous. Alors, quand on lit certains textes, nous devons faire le chemin nécessaire entre moi qui habite et qui vis au XXIe siècle et le premier auditeur, le premier lecteur du texte qui était peut-être il y a plusieurs milliers d'années. Pourquoi il est important de faire cela ? C'est qu'il est important de ne pas appliquer la Bible d'une manière qui ne serait pas l'intention de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas sortir des textes de leur contexte, nous ne devons pas sortir des principes bibliques de leur contexte. Et majoritairement, cela va poser problème sur l'Ancien Testament, parce que nous devons faire un effort toujours plus important de comprendre le contexte initial de destination du texte biblique. Alors, ayant dit cela, Ça ne va pas forcément être une solution magique pour vous, c'était juste pour vous préserver de mauvaises interprétations. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà entendu. Quelqu'un est venu me voir un jour en me parlant qu'il avait eu une révélation et qu'il venait lire un texte de Josué qui disait que quand ils allaient marcher dans la terre promise, tous les territoires qu'ils allaient fouler allaient leur appartenir. Et cette personne qui me disait cela me dit, j'ai eu une révélation et ce texte est pour moi. Et j'ai bien compris que moi qui suis arrivé en métropole, en France, sans papier, cela veut dire que je dois rester en France malgré ma situation administrativement qui n'est pas en règle. Alors là, j'ai un grand désaccord. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire des miracles dans la vie de cette personne et lui donner la capacité de mettre en règle son dossier administratif. Et j'ai envie de prier en faveur de cette personne, c'est pas ça le problème. Mais on ne peut pas appliquer un texte qui a été donné il y a 5000 ans dans une circonstance particulière par rapport à un territoire particulier et l'appliquer à notre propre vie sans transition. Il faut comprendre quels sont les principes bibliques derrière un texte. Et c'est ça le travail que nous devons faire quand nous étudions, quand nous lisons la parole de Dieu. Découvrir le principe biblique derrière le texte pour pouvoir le transposer à notre quotidien en faisant attention que nous ne détérions pas, que nous n'abîmons pas. Ça sera plus simple. Le principe pour en faire quelque chose qui vient me satisfaire dans ce que j'ai envie de trouver. Parce que la Bible, c'est un texte qui vient du ciel, pas écrit par Dieu, mais qui est écrit par des hommes. Mais c'est un message qui est divin et nous ne pouvons pas le détériorer juste pour le faire rentrer dans nos circonstances. L'important, c'est de garder le principe biblique. Alors, c'est un travail, c'est pas quelque chose de facile, il faut des méthodes, il faut prendre le temps, il faut prier, il faut aussi être sage dans nos interprétations. Après, à partir du moment où nous avons réussi à trouver le principe biblique, comment l'appliquer à nos vies ? Et c'est là que le travail du chrétien et la piété du chrétien s'expriment. Nous devons prendre le temps d'appliquer les principes que nous découvrons à nos circonstances et à nos vies. Prenons un exemple. L'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est merveilleuse et nous enseigne plein de choses. On peut très bien voir dans l'histoire de Joseph que Dieu a permis que Joseph traverse des circonstances. Parce que Dieu nous enseigne qu'au-delà du mal que quelqu'un veut faire à Joseph, Dieu l'a destiné pour le bien. Que Dieu est capable de transformer un mal présent en bien. Que Dieu est capable de veiller sur la vie de quelqu'un bien plus loin que juste les quelques mois, quelques années suivantes. Il est capable d'avoir une vue d'ensemble, une souveraineté sur les circonstances. Ça, ce sont des principes bibliques. Et bien ces principes bibliques, même si nous ne nous appelons pas Joseph, même si nous ne sommes pas vendus comme esclaves dans le désert par nos propres frères, ça c'est les circonstances, le principe biblique reste le même. Dieu reste souverain dans nos circonstances à nous. Nous devons croire que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Nous devons croire avec fermeté que Dieu veille sur nos destinées. Ça c'est l'application à nos vies et ça transforme notre quotidien. Alors comment laisser Dieu se révéler à nous ? Ça, c'est une bonne question. C'est à la fois la révélation de Dieu sur nos vies, c'est à la fois une part d'étude, une part de discipline, une part de lecture de la parole de Dieu, une part de nourrir nos cœurs de sa parole et une part de prière, d'écoute et d'abandon de nos circonstances entre ses mains. Le mot révélation est toujours un petit peu dangereux parce que derrière le mot révélation, on peut y mettre beaucoup de choses. On peut se dire, Dieu va se révéler à moi au sens qu'il va me donner un songe puissant qui va me dévoiler les circonstances de ma vie et de bien d'autres. Oui, il y a ce sens, mais Dieu se révèle aussi dans la simplicité la plus extrême. Dieu se révèle dans nos vies en nous encourageant à marcher dans ses voies, en nous confirmant que nous sommes toujours sur le bon chemin à ses côtés. Dieu se révèle aussi tout simplement en nous aidant à vivre ce que nous lisons chaque matin. Dieu se révèle aussi dans des circonstances qui nous dépassent. Dieu se révèle, oui, il peut nous parler, vous pouvez l'entendre, vous pouvez l'écouter, c'est une réalité. Mais la révélation de Dieu, ce n'est pas simplement une seule forme définie, ce n'est pas simplement une vision angélique qui vient nous parler. Ce n'est pas que ça, la révélation. Très peu ont vu des anges dans la Bible, mais des milliers de personnes se sont conduites selon la révélation de Dieu. Donc la révélation, c'est progressif, c'est notre quotidien à genoux, c'est notre quotidien et notre intimité qui croit en Jésus. Et c'est un travail de fond, c'est une persévérance qui s'établit. Alors ne cherchez pas et ne cherchons pas des révélations. Chaque matin, ne soyons pas comme à la course de quelques révélations, mais soyons sérieux dans notre étude de la parole de Dieu. Cherchons à grandir dans notre foi, à grandir dans notre connaissance de qui est Dieu. Certains cherchent des révélations alors que devant eux, ils ont tellement de travail juste pour connaître la réalité de Dieu. C'est déjà tellement important cela, avant de vouloir chercher des révélations qui sont extraordinaires. La dernière chose, la dernière question que je vais attaquer ce soir, c'est une question par rapport à l'Église. Il est dit, qu'est-ce que l'Église, et c'était bien écrit avec un grand E, et qu'est-ce que l'Église locale? Ça c'est très intéressant, nous aurons sûrement un cours sur l'ecclésiologie, sur tout ce qui concerne l'Église, mais très rapidement, c'est assez intéressant de parler de cela. D'abord, je vous dirais que le mot « église », il faut le prendre dans son contexte étymologique, il faut l'étudier un petit peu dans ce qu'il veut dire. Le mot « église » vient d'un terme grec qui est « ecclésia ». Ce terme n'est pas un terme chrétien à proprement parler, c'est un terme du langage grec habituel, bien avant que le christianisme arrive. Ce terme « ecclésia » veut dire « appelé hors d'eux. C'est-à-dire, tout simplement que l'Ecclésia était une communauté, une assemblée, une réunion de personnes qui siégeaient à l'extérieur de la ville. Et ce terme a été repris pour plusieurs aspects, c'est-à-dire que l'Église de Christ, c'est un groupe de personnes qui est rassemblée par Dieu et qui est appelée hors du monde, qui est appelé à discuter, à vivre et à se développer hors du monde. Ces deux sens sont là, c'est le fait d'être tiré du monde et le fait d'être ensemble. On a d'autres termes dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qui reprennent l'aspect de l'ensemble, de la communauté, c'est la synagogue. Le terme grec de synagogue est rattaché au terme hébreu de l'Ancien Testament, de l'assemblée. C'est un terme qui nous montre le fait d'être ensemble dans un même lieu. Alors déjà, donc, cette définition nous dit beaucoup de choses. Après, nous avons deux définitions qui distinguent. Nous avons ce qu'on appelle l'Église dans son ensemble. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église avec un grand E, souvent comme on aime le dire. Nous avons cette terminologie aussi où on parle d'Église universelle et l'Église locale. Les deux sont importants. Et il est évident que je fais partie de l'Église universelle parce que Dieu rachète des hommes et des femmes partout dans le monde, même si nous ne nous rencontrons pas le dimanche. Ou un autre jour, là où nous habitons, je ne pourrai jamais voir l'ensemble des chrétiens là où j'habite, mais je sais très bien que le corps de Christ est général et mondial. Toutes les couleurs de peau, toutes les arrière-plans culturels, tous les pays, toutes les langues sont touchées par le corps de Christ parce que Dieu rachète des hommes et des femmes à travers le monde. Ça, c'est l'Église universelle. Mais Dieu nous parle d'une église locale. Dieu nous parle d'un lieu où nous pouvons nous rassembler. Dieu nous parle à travers les actes des apôtres, à travers les épîtres, de l'importance de se rassembler. Jésus lui-même a témoigné de cette réalité. Ça ne s'appelait pas encore l'église, mais Jésus est allé prêcher dans toutes les synagogues pour se rassembler avec ceux qui étaient ses frères de religion. Dans le judaïsme, il était là pour leur apporter la lumière, leur dire « Voici le Messie que vous attendez, il est bienvenu. » Les deux sont importants. Nous ne pouvons pas réellement contribuer à l'avancement de l'Église universelle sans contribuer à l'avancement de l'Église locale. Parce que Dieu n'a pas juste racheté des hommes pour qu'ils vivent leur vie tranquillement tout seuls. Il les a rassemblés pour qu'ils construisent des communautés qui sont fortes, qui s'édifient, qui grandissent, qui se multiplient et qui s'aiguisent les uns avec les autres. Il est important de réaliser qu'une des missions de l'Église, c'est de faire grandir chaque chrétien. Et pour grandir, vous avez besoin de connaître ce qui vous entoure, vous avez besoin de frotter votre caractère aux réalités de vos frères et sœurs, vous avez besoin de voir aussi des occasions pour grandir, changer, vous transformer, avancer. Vous avez besoin aussi d'un lieu pour pouvoir servir ensemble et louer ensemble. Vous avez besoin d'un temps pour prier ensemble. C'est tout un tas de principes qui sont associés à la vie de l'église locale et qui sont essentiels. Donc l'église locale est dans l'église universelle. L'église universelle englobe l'ensemble des églises locales. Et nous verrons peut-être plus tard un peu plus de détails. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire ce soir. Répondre à des questions et en même temps vous parler de ces attributs. Cherchez Dieu. Ça, c'est ma prière. Cherchez Dieu. Continuez à m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à le faire. contact.pastorsam@gmail.com. C'est un plaisir de vous retrouver chaque mercredi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.